Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique durant laquelle nous désirons vous accompagner vers une meilleure connaissance de Jésus-Christ.
Yann s'est rendu chez notre invité Charles pour reprendre leur discussion sur l'image du berger trouvée tout au long de la Bible. Yann va aussi nous rappeler ce qui a été dit la dernière fois.
La dernière fois, nous avons appris que la Bible considère que les responsables ou les chefs dans la société doivent agir envers les personnes qui leur sont confiées, comme un berger s'occupe de ses brebis. Nous avons aussi appris qu'à l'époque des récits bibliques, cela n'a pas toujours été le cas, et même aujourd'hui, vous pouvez vous sentir incompris ou lésé par ceux qui détiennent le pouvoir. Et Dieu a dit, par le prophète Ézéchiel, qu'il enverra un berger par excellence, qui saura bien s'occuper de son peuple. Et aujourd'hui, Charles va dévoiler son identité. De qui parlait donc le prophète ?
Il s'agit, comme vous avez peut-être pu le deviner, de Jésus-Christ.
Et comment pouvez-vous en être si sûr ?
Jésus lui-même s'est présenté devant le peuple pour affirmer qu'il était ce bon berger, promis par Dieu. Je vais lire Jean chapitre 10, versets 7 à 16. Jésus-Christ déclare « Je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne l'ont pas écouté. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paie pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger.
Oui, effectivement, je vois que ce texte contient beaucoup de pensées déjà contenues dans le texte du prophète Ézéchiel que nous avons lu la dernière fois. Jésus dénonce d'une part ceux qui voudraient faire du mal aux brebis, comme ceux qui les abandonnent au moindre danger. D'autre part, Jésus affirme que lui n'agit pas de cette façon. Il ne recherche aucun gain financier ou personnel. Bien au contraire, il est prêt à renoncer à lui-même, à ses propres intérêts, car il désire s'occuper de son troupeau et assurer son bien, quel qu'en soit le prix à payer.
Oui, vous avez raison. Ce sont des paroles très percutantes. D'une part, Jésus dit que les chefs du pays, qu'ils soient spirituels ou autres, n'accomplissent pas leurs devoirs. D'autre part, il montre que lui est le bon berger par excellence, celui promis par Dieu. La foule a bien compris ses propos et ses paroles ont suscité de vives discussions et même une opposition virulente.
Oui, nous pouvons comprendre que si certains responsables ont entendu ces paroles, ils devaient se sentir accusés et attaqués. Mais au lieu de réfléchir à la portée de ces mots, ils se sont acharnés contre lui, jusqu'à le faire mourir sur la croix.
C'est exact. Si Jésus a fait des reproches sur le comportement de ses chefs, c'est qu'il devait effectivement être coupable d'actes de négligence ou bien d'injustice. Lorsque Jésus nous dévoile ce qui ne va pas dans notre vie, nous avons un choix à faire. Nous devons nous remettre en question et accepter nos torts, chercher le pardon de Dieu et changer de comportement. Malheureusement, trop souvent, les gens se tournent contre Jésus. Ils préfèrent le rejeter, s'opposer à lui et continuer dans leur voie égoïste et injuste.
Nous pouvons dire que beaucoup de personnes se sentent comme une brebis perdue, le vécu étant marqué par l'injustice, le malheur. Et elles peuvent se sentir seules, abattues et désespérées. Que peut offrir Jésus à de telles personnes? Et en quoi est-il le bon berger?
C'est effectivement le moment de nous pencher sur le texte lu plus attentivement. La première chose que je voudrais souligner est celle-ci. Jésus dit qu'il est venu pour que les gens aient la vie et qu'il l'est en abondance. Nous pouvons ainsi comparer Jésus à un berger qui pourvoit généreusement aux besoins de son troupeau.
J'ai envie de soulever cette question. En quoi consiste la vie abondante? Beaucoup de nos auditeurs peuvent manquer de bien des choses essentielles dans leur vie. Ce texte promet-il aux nécessiteux que Jésus les comblera de biens et qu'ils ne connaîtront plus les privations matérielles?
C'est une question très importante. Et nous en trouvons la réponse un peu plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3.
Et que dit ce verset?
La vie consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je peux comprendre les préoccupations de ceux qui ne savent pas si demain ils auront de quoi se nourrir, et je suis sûr que Jésus n'est pas insensible à ses besoins vitaux. Cependant, Jésus veut souligner que la vie, la vraie, ne consiste pas à posséder des biens matériels, ni à mener une existence aisée. Non, la vie, la vraie et abondante, la vie éternelle consiste à connaître Dieu et le berger qu'il a envoyé, Jésus-Christ. C'est un rappel que la véritable richesse se trouve non pas dans les choses que nous possédons, mais dans les personnes que nous connaissons. Les relations d'amour, de fidélité, de confiance sont irremplaçables. Et parmi les personnes que nous pouvons connaître, celle qui nous apportera le plus de richesse en termes d'amour fidèle est Dieu. La meilleure chose que Jésus peut nous donner en tant que berger est de nous conduire à Dieu, c'est-à-dire nous faire connaître celui qui représente notre bien le plus précieux.
Mais y a-t-il un rapport entre cette pensée et les voleurs ou mauvais bergers que Jésus évoque?
Oui, tout à fait. Nous pouvons supposer que les chefs visés par Jésus ont donné au peuple un enseignement dépourvu de vérité ou d'espérance. Par ce qu'ils disaient, ils ont rendu confus le chemin qui mène à Dieu et conduit dans l'erreur les gens, qui, à leur écarter du bon chemin, sont restés dans l'ignorance et la confusion, privés de la possibilité de connaître Dieu et la vraie vie.
Et aujourd'hui, qu'en est-il?
Beaucoup d'idées, d'enseignements et de philosophies sont données, mais nous devons rester prudents. Certains nous séduisent en nous donnant de faux espoirs, car trompeurs et destructeurs, ils nous conduisent au malheur. Souvent, ceux qui apportent de tels enseignements ont leurs propres intérêts à cœur et non les nôtres. Jésus, toutefois, est digne de confiance. Il est le bon berger qui nous offre la véritable richesse, c'est-à-dire la connaissance du seul Dieu vivant et vrai. Jésus a promis de s'occuper de ses brebis, les croyants. Il leur apporte la vérité dans un monde confus, de l'amour dans un monde cruel et une espérance dans un monde malheureux. Voilà en quoi consiste la vie abondante.
Jésus est son nom, le bon berger qui veille sur ta vie. Jésus est son nom, le bon berger qui veille sur ta vie.
Vous venez d'écouter un extrait de « Jésus, c'est son nom » chanté par Diapason. Et nous remercions Charles d'avoir parlé de l'importance de connaître Jésus et de se confier en lui. Car il est le berger bienveillant qui prend soin de ses enfants.
Maintenant, notre invité Jean-Luc va nous parler davantage de la rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus. Écoutons d'abord le récit biblique lu dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 29 à 34.
Tu as tenu ta promesse, et mes yeux ont vu ton salut. Lumière pour éclairer les nations. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. »
Dans les émissions précédentes, nous avons vu avec quelle joie et quel soulagement Siméon accueillit l'enfant Jésus. Il avait compris que cet enfant allait devenir le sauveur et la lumière de toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la prophétie de Siméon. Il annonce qu'à cause de Jésus, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Que voulait-il dire? Nous savons que dans les pays où il y a de l'instabilité politique, les gouvernements peuvent changer du jour au lendemain. Et quand cela arrive, ceux qui détenaient le pouvoir risquent de tout perdre. Leur position, leur influence et parfois même leur liberté. Certains doivent partir en exil, d'autres sont emprisonnés. On peut dire de ces personnes qu'elles sont tombées. Au même moment, d'autres se relèvent. Certains qui se trouvaient en prison à cause de leur opposition sont relâchés pour accéder aux positions de pouvoir et porter les espoirs du peuple. Ceux qui étaient opprimés sous l'ancien régime obtiennent de nouvelles libertés. Je cite ces événements en guise d'illustration et je dois souligner que Jésus n'est venu ni pour renverser des gouvernements, ni pour mener des coups d'État. Il désapprouve les méthodes violentes. Toutefois, Jésus n'avait pas peur de dénoncer ce qui n'allait pas dans la société, et il nous a tous avertis du jugement à venir qui bouleversera toute chose. Il donnait en même temps un exemple inhabituel de compassion envers les exclus et les pauvres. Jésus est allé auprès des personnes atteintes de la lèpre pour les purifier, auprès des malades et des infirmes pour les guérir, auprès des personnes qui sombraient dans des péchés graves. Ces personnes étaient méprisées par des gens dits respectables, mais Jésus leur a offert le pardon de Dieu et la possibilité d'un nouveau départ dans la vie. Jésus est allé auprès des personnes se trouvant sous l'emprise d'esprits mauvais pour les libérer de ces puissances maléfiques. Auprès des pauvres, il a apporté une bonne nouvelle de ce que la véritable richesse consiste en une relation renouée avec Dieu notre Père. Jésus a ainsi relevé des personnes qui se trouvaient dans les bas-fonds de la société. Il les a restaurées. Aujourd'hui, Jésus peut nous relever par son message de pardon, de grâce et d'espérance. Cependant, il rappelle que le meilleur est à venir. Au jour du jugement, ceux et celles qui auront mis leur foi en Jésus seront à l'abri de sa condamnation et de sa colère. Ce jour-là, il renversera tous ceux qui, aujourd'hui, refusent orgueilleusement son règne et ses avertissements sur les dangers du pouvoir, de l'ambition et des richesses. Alors, ce jour-là, de telles personnes tomberont, tandis que le croyant fidèle sera élevé jusqu'à la gloire qui est la sienne par la résurrection et la vie éternelle. Jésus nous fera tomber ou nous fera relever selon la position que nous aurons prise envers lui. Qu'en est-il pour vous ?
Un berger est l'ami des brebis, mais aussi l'ennemi des bêtes féroces ou des brigands qui leur voudraient du mal. Il en est de même pour Jésus. Il est de bon berger qui chassera de sa présence tous ceux qui s'opposent à lui. Mais il relèvera ceux qui s'attachent à lui par la foi. Il restera leur ami fidèle pour toujours.
Jésus a dit que lui, le bon berger, donnera sa vie pour ses brebis. Nous expliquerons le sens de ses paroles la prochaine fois. En attendant, nous vous disons au revoir et prions pour que Jésus vous accorde sa grâce et sa paix.
Au revoir et à bientôt.